Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 20 septembre 2024. La commission électorale du Ghana approuve la candidature de 13 personnes à l'élection présidentielle. Au Niger, la rentrée scolaire initialement prévue le 2 octobre est repoussée au 28 octobre en raison des inondations. Les groupes islamistes au Burkina Faso ont intensifié leurs attaques contre les civils, commettant des crimes de guerre selon Human Rights Watch.
Plus de 15 000 personnes ont été tuées depuis 2022.
Hilaria Allegrosi, chercheuse principale pour le Sahel à Human Rights Watch, nous en dira plus dans la partie magazine. Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à partir de dimanche au siège des Nations Unies pour la 79e Assemblée générale de l'organisation. Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth, un chef du Hezbollah tué. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Ghana, 13 candidats vont se disputer le fauteuil présidentiel en décembre. L'organe électoral a annoncé ce vendredi la liste des candidats retenus. Le point avec Rosine Monizero.
La commission électorale a déclaré qu'elle avait confirmé la liste finale des 9 candidats des partis et des 4 indépendants. Sur les 24 personnes qui ont présenté des candidatures, 11 ont été disqualifiées, a indiqué la commission. Le scrutin s'annonce serré entre le vice-président Mamoudou Bawumia du New Patriotic Party NPP au pouvoir et le leader de l'opposition John Mahama du National Democratic Congress NDC. C'est la première fois que 2 candidats à la présidence, Bawumia et Mahama, originaires du nord du Ghana, se présentent au scrutin. Les tensions électorales augmentent déjà, le NDC ayant organisé récemment des manifestations dans tout le pays pour demander un audit judiciaire du registre des électeurs. L'opposition affirme que le registre contient les noms de personnes décédées et d'électeurs transférés illégalement. L'élection du 7 décembre a lieu dans un contexte de reprise économique après la grave crise financière que le Ghana a connue en 2022 et qui a conduit le gouvernement à faire défaut sur sa dette extérieure.
Au Kenya, 3 manifestants qui avaient disparu le 19 août près de Nairobi sur fond de répression d'un mouvement de jeunesse ont été libérés, ont annoncé ce vendredi 2 organisations de défense des droits humains qui accusent la police kenyane. Le lieu où Bob Njagi, Aslam Lonton et son frère Jamil Lonton ont été retenus pendant un mois n'a pas encore été établi. Ces hommes avaient participé à des rassemblements dénonçant les disparitions durant les manifestations antigouvernementales de juin, un mouvement d'une ampleur inédite ces dernières décennies au Kenya, selon ces organisations. La Côte d'Ivoire a lancé aujourd'hui un plan alerte enlèvement, directement inspiré du dispositif en vigueur aux États-Unis et en France, qui permet d'alerter massivement et rapidement la population de la disparition d'un enfant. Le plan alerte enlèvement, en plus de garantir une meilleure protection de nos enfants, renforcera la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, lors d'un point de presse. La rentrée scolaire est repoussée de près d'un mois au Niger suite aux inondations. La décision du gouvernement affecte près de 4,5 millions d'élèves que compte le pays. Alexandrine Olugnon.
Initialement prévue le 2 octobre, la rentrée scolaire est repoussée au 28 octobre en raison des dommages causés dans de nombreuses écoles par les fortes pluies et l'occupation de salles de classe par des personnes déplacées par les inondations. Le Niger fait face depuis quelques années à des inondations récurrentes, y compris dans les zones très désertiques du nord, où d'importants dégâts ont été enregistrés encore cette année. Dans la région de Maradi, la plus sévèrement touchée, une centaine de tentes ont été installées pour accueillir des sinistrés réfugiés dans des écoles. Le dernier bilan du ministère nigérien de l'Intérieur dénombrait au 4 septembre la mort de 273 personnes, dont 121 par noyade et 152 par effondrement des maisons. Mi-septembre, plus de 9 742 tonnes de céréales ont été mises à la disposition des 8 régions touchées pour assister 112 425 ménages, soit près d'1 million de Nigériens affectés par les inondations. Le Conseil des ministres assure toutefois que la situation est sous contrôle.
En Guinée, la télévision nationale a diffusé jeudi soir des images du colonel Claude Pivi. Son avocat avait déclaré qu'il était introuvable à Conakry après l'arrestation du fugitif au Libéria. L'incertitude sur son sort était d'autant plus grande que deux opposants à la junte actuelle ont disparu en juillet. De plus, un ancien chef d'état-major de l'armée et ex numéro 2 du régime militaire est mort dans des circonstances troubles en détention pendant le mois de juin. Claude Pivier a en fait été conduit à la prison de Koya, à quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Conakry, a expliqué aujourd'hui le ministre de la Justice.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La tension monte entre Israël et le Hezbollah. Une source proche du mouvement a affirmé aujourd'hui qu'un de ses chefs a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, tandis qu'Israël a confirmé une frappe ciblée sur la ville. John Lydon.
Cette frappe est la troisième sur la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah revendiqué ou attribué à Israël depuis que le mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran a ouvert le front du sud et du Liban il y a près d'un an en soutien au Hamas palestinien dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza. Selon une source proche du Hezbollah, le chef de la force Al-Radwan, l'unité d'élite du mouvement Ibrahim Aguil, a été tué dans cette frappe. L'armée israélienne a parlé de frappes ciblées sur Beyrouth. 3 personnes ont été tuées et 17 blessées dans le raid israélien, selon le ministère libanais de la Santé. Après les spectaculaires explosions attribuées à Israël d'appareils de transmission utilisés par des membres du Hezbollah mardi et mercredi, les échanges de tirs se sont intensifiés depuis jeudi entre l'armée israélienne qui a mené des dizaines de frappes dans le sud du Liban et l'Ouest.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va retarder d'une journée son départ pour New York, initialement prévu le 24 septembre, en raison de la situation sécuritaire dans le nord d'Israël, a indiqué un responsable de son bureau. Au cours de sa visite aux États-Unis, M. Netanyahou s'exprimera à la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, son retour en Israël étant prévu le 28 septembre. Cela dit, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce vendredi après la vague d'explosions mardi et mercredi de beepers et de talkie-walkies à travers le Liban. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait affirmé mercredi que les objets civils ne devaient pas être transformés en armes. Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à partir de dimanche à New York pour la grand-messe annuelle de l'ONU, à un moment où la communauté internationale est incapable de faire taire les armes à Gaza, en Ukraine ou au Soudan. Le point avec Eric Manirakiza.
Du Moyen-Orient au Soudan, à l'Ukraine et au-delà, nous voyons les bannes et les bombes mutilées et tuées, les corps qui s'entassent, des populations traumatisées, des bâtiments en ruine, a dénoncé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ce moment phare pour la diplomatie internationale ne pourrait pas se produire à un moment plus critique, a commenté l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Avant la succession habituelle des discussions à la tribune de l'Assemblée générale, à partir de mardi, cette semaine diplomatique s'ouvrira dimanche et lundi par le sommet de l'avenir. Des 193 États membres doivent y apporter un pacte pour l'avenir, censé renforcer les outils internationaux pour faire face aux défis et menaces du XXIe siècle, passant en revue l'importance du multilatéralisme et du respect de la Charte de l'ONU, la réforme des institutions financières internationales ou encore la lutte contre le changement climatique, le désarmement, le développement de l'intelligence artificielle. Malgré l'absence, comme les dernières années, des présidents russes et chinois, la liste des dirigeants annoncés à New York est longue. L'Américain Joe Biden, le Français Emmanuel Macron, le Britannique Keir Starmer, l'Indien Narendra Modi, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, l'Ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs chefs d'État africains.
À 45 jours de la présidentielle américaine, Kamala Harris se rend ce vendredi dans l'État de Géorgie pour y parler de droit à l'avortement, tandis que dans plusieurs autres États, des électeurs commencent à voter de façon anticipée. Son adversaire Donald Trump se rend lui à Miami pour une réunion de levée de fonds fermée à la presse. Nouveau signe que la date du scrutin se rapproche. Des bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui dans trois États qui offrent la possibilité de voter physiquement par anticipation. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
La Société financière internationale a octroyé un prêt de 200 millions de dollars à Airtel Africa pour ses filiales en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Kenya. Le financement est destiné à la modernisation du réseau avec un accent particulier sur les zones rurales. Cette collaboration permettra à des millions de personnes d'accéder à des réseaux haut débit pour tirer parti des opportunités de l'économie numérique, a déclaré la direction de la SFI pour l'Afrique de l'Est. Le gouvernement tunisien et les sociétés d'énergie renouvelable Scatec et Eolus ont signé des accords de 88 millions de dollars pour la construction de centrales photovoltaïques à Sidi Bouzid et Tozeur d'une capacité de 50 mégawatts chacune. Des ministres et industriels d'une quinzaine de pays dont le Ghana sont réunis à Paris pour une conférence internationale sous l'égide de l'OCDE destinée à la relance du nucléaire pour tenir les objectifs climatiques mondiaux. Les discussions porteront sur les moyens de débloquer des capitaux importants à des taux compétitifs, de garantir des chaînes d'approvisionnement saines et résistantes, ainsi qu'une main-d'œuvre qualifiée.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous.
Les matchs retour du deuxième tour préliminaire des compétitions africaines de club commencent ce vendredi.
Oui, un seul match en Ligue des Champions ce vendredi. 21-0 à l'aller à Bamako, les Burkinabés de l'AS Douane se déplacent en Algérie pour affronter le CR Belouizdad. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako affronte Pennsville du Liberia. À l'aller, le stade avait perdu au Liberia 1-0. Un score qui met mal à l'aise Mamoutou Kané Dimourlé, coach du stade malien de Bamako.
Très, très capital pour le stade et très capital pour moi, Mourlé, qui suis entraîné aujourd'hui. Je suis dans une situation qui ne m'est jamais arrivée, que je n'ai jamais passée. Donc c'est une pression pour moi, supplémentaire. Mais je n'ai jamais douté de ce que je fais. J'ai tout le temps fait confiance à ce que je fais et j'ai tout le temps passé. Et je crois également, avec cette équipe, je crois que j'ai une chance. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas du tout facile, mais je peux avoir une chance pour passer ce tour.
Mourlé est au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Toujours ce soir en Coupe de la Confédération, victorieux 1-0 en déplacement, le Zamalek du Caire reçoit Police FC du Kenya au stade international du Caire. La mission s'annonce compliquée pour les Béninois de Dadier FC, battus 2-0 chez eux et qui vont défier les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane.
Le Maroc s'est qualifié pour le huitième de finale du mondial de futsal qui se joue en Ouzbékistan.
Grâce à des doublés de Soufiane El Mesrar, Soufiane Charaoui et Idriss Raïs El Feni, les champions d'Afrique en titre ont dominé le Panama 6-3. Les Marocains arrachent ainsi leur ticket pour les huitièmes de finale dès la deuxième journée. Prochain adversaire du Maroc lors du dernier match de groupe I, le Portugal dont le sélectionneur José Braz estime que les Lions de l'Atlas sont l'une des meilleures équipes de ce mondial de futsal. Fort de deux victoires, Marocains et Portugais sont qualifiés pour le tour suivant et se disputent donc la tête de leur poule E.
Enzo Maresca confirme que Nicolas Jackson est son attaquant numéro 1.
À l'heure actuelle, Nicolas Jackson est notre attaquant. Je n'ai aucun doute, a indiqué l'entraîneur de Chelsea, confirmant que l'international sénégalais reste titulaire du poste devant le français Christopher Nkunku. Depuis le début de saison, avec notre façon de jouer, nous avons utilisé Nicolas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas Marc ou Christopher en numéro 9 en fonction des matchs à développer Maresca, précisant actuellement nous sommes très heureux avec Nicolas.
Joel Embiid signe une prolongation de contrat avec les Sixers.
Médaillé d'or olympique, l'Américain d'origine camerounaise et les Philadelphia Sixers se sont mis d'accord sur une extension de 193 millions de dollars jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. Pendant trois ans de plus, Joel Embiid, sept fois All-Star, va donc tenter de remporter son premier championnat de la NBA avec les Sixers, selon une source familière qu'il a confiée à l'Associated Press. Embiid, 30 ans, a annoncé lui-même la nouvelle ce vendredi en publiant sur Instagram une photo de lui signant un contrat aux côtés du propriétaire de l'équipe, Josh Harris. « Je vais être ici pour le reste de ma carrière. J'aime cette communauté et tout ce que vous m'avez donné à moi et à ma famille », a écrit Embiid, ajoutant « Il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous méritez un championnat et je pense que nous ne faisons que commencer. »
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les groupes islamistes au Burkina Faso ont intensifié leurs attaques contre les civils, commettant des crimes de guerre selon Human Rights Watch. Entre février et juillet 2024, au moins 128 civils ont été tués lors de cette attaque. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint Ilaria Allegrosi, chercheuse principale pour le Sahel, à Human Rights Watch, qui nous éclaire sur cette recrudescence de violence.
Cette recrudescence d'attaques s'explique d'abord par une montée en puissance de la part de ces groupes, mais aussi par une réponse inadéquate à la menace djihadiste de la part des forces de sécurité. Il faut noter que nous avons rédigé ce rapport en collaboration avec l'ONG ACLED qui nous a fourni des chiffres concernant les attaques depuis les débuts de l'année, ainsi que sur les morts civiles toujours depuis de l'année et l'année passée. Donc, on a fait une comparaison. Et notre rapport montre bien que plus de la moitié des personnes tuées dans le cadre du conflit au Burkina Faso depuis 2016, c'est-à-dire depuis le début du conflit, mais plus de la moitié de ces personnes tuées l'ont été depuis l'arrivée au pouvoir de la junte. C'est-à-dire plus de 15 000 personnes ont été tuées depuis 2022. Une junte qui a réagi, qui a, qui a géré la menace djihadiste avec un poignet de fer, avec une réponse purement militaire, avec une mobilisation générale, avec cet appel à la reconquête du territoire, avec le recrutement de plus de 50 000 VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, c'est-à-dire des auxiliaires et civils de l'armée.
Vous ne mentionnez pas le massacre de Barsalogho. Qu'est-ce qui distingue cet incident des autres?
Alors, la dernière attaque de Barsalogho, qui effectivement ne figure pas dans notre rapport, mais sur laquelle nous sommes en train d'enquêter, nous avons envoyé une demande aux autorités avec les résultats préliminaires de notre recherche et des questions spécifiques. Donc, cette attaque de Barsalogho, d'après moi, illustre bien à quel point, comme je le disais, les populations sont prise en tenaille, elle se trouve entre les marteaux et l'enclume.
Votre rapport illustre les violences djihadistes. Auriez-vous contacté le gouvernement burkinabé avant la publication de ce rapport et que dit le gouvernement de Ouagadougou?
Alors, effectivement, nous avons sollicité la réponse des autorités. Nous avons envoyé deux lettres au gouvernement, au ministre de la Justice et au ministre de la Défense, en détaillant les conclusions de nos enquêtes. Et le ministre de la Justice nous a répondu. Le ministre, en fait, nous a rassuré que les membres des groupes armés impliqués dans des atteintes des droits humains font systématiquement l'objet des poursuites par les autorités judiciaires. Il nous a fourni même des exemples concrets.
Ilaria Allegrosi, chercheuse principale pour le Sahel à Human Rights Watch. L'intégralité de l'entretien est à suivre sur voafrique.com.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À moins de 50 jours de la présidentielle américaine, les candidats Donald Trump et Kamala Harris font campagne dans des États clés, chacun déclarant avoir les politiques nécessaires pour relancer l'économie. Un sujet de Scott Stern, correspondant de la VOA, Alexandrine Ollognon raconte.
Donald Trump affirme que les emplois des ouvriers de l'automobile dans l'État de Michigan sont menacés par les politiques de son adversaire en matière d'énergie renouvelable.
La Chine va s'emparer de toutes vos activités grâce à la voiture électrique et parce qu'elle possède le matériel. Nous n'en avons pas. Ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'essence. Nous avons de l'essence. Nous avons tellement d'essence que nous ne savons pas quoi faire. Ils n'ont pas d'essence. Alors pourquoi fabriquons-nous un produit qu'ils dominent ?
Alors qu'une majorité d'électeurs américains déclarent que l'économie et l'inflation sont leurs principales préoccupations électorales, le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, poursuit sa campagne en associant les inquiétudes économiques à Kamala Harris.
L'inflation explose. C'est la faute de Kamala Harris. Des achats que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est la faute de Kamala Harris. Des logements inabordables pour les jeunes familles américaines. C'est la faute de Kamala Harris.
Les propositions économiques de Harris dans le cadre de cette campagne comprennent des allègements fiscaux pour les nouveaux acquéreurs, pour les nouveaux parents et pour les propriétaires de petites entreprises. Cette semaine, elle a déclaré à des journalistes noirs en Pennsylvanie, un État en pleine mutation, qu'une partie de l'amélioration de l'économie américaine passait par le dépassement des divisions qu'elle impute à ses adversaires.
Is the price of groceries still too high? Yes.
Le prix des produits alimentaires est-il encore trop élevé? Oui. Avons-nous encore du travail à faire? Oui. Et je vais vous dire, je crois que j'offre une nouvelle génération de leadership pour notre pays qui consiste en particulier à tourner la page d'une époque qui nous a malheureusement montré les tentatives de certains d'inciter à la peur, de créer des divisions dans notre pays et de faire le travail qui consiste à apporter un certain niveau d'optimisme et, j'ose dire, d'ambition quant à ce que je sais être possible dans notre pays.
Trump se dit optimiste pour le pays tant qu'il le dirige. Il affirme que l'économie serait beaucoup plus forte aujourd'hui avec des droits de douane plus élevés sur les importations s'il avait été réélu en 2020. Dans les derniers jours de la campagne, Trump continue d'affirmer à tort que sa défaite en 2020 a été truquée.
Si je n'avais pas obtenu de bons résultats en 2020, je ne penserais même pas faire cela. Mais nous avons obtenu des résultats phénoménaux et des mauvaises choses se sont produites. Et nous n'avons pas laissé cela se reproduire.
Le colistier de Kamala Harris, Tim Walz, ancien enseignant, qui estime que Trump semble avoir du mal à comprendre la défaite qu'il a subie il y a 4 ans.
Je pense que je suis un assez bon professeur et je donnerai toujours à mes élèves des chances supplémentaires d'apprendre. Parfois, on n'apprend pas la leçon du premier coup. Ainsi, Donald Trump n'a pas appris la leçon la première fois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va apprendre la leçon en novembre.
Harris et Walz sont pratiquement à égalité avec Trump et Vance dans la plupart des sondages d'opinion dans les quelques 7 États qui décideront de la course. À mesure que le jour de l'élection se rapproche, les campagnes vont concentrer leur budget et leur attention presque exclusivement sur ces États.
Les dirigeants du monde entier se réunissent à partir de dimanche pour leur réunion annuelle aux Nations Unies. Parmi les sujets qui seront au cœur des échanges, les guerres à Gaza, au Soudan et en Ukraine. Margaret Bichet, correspondante de la VOA à l'ONU, nous en dit plus. Le récit est de Gabi Dorsil.
Cette année, l'Assemblée générale des Nations unies se déroulera dans un contexte mondial de conflits multiples, comme l'a relevé le secrétaire général Antonio Guterres.
Nous assistons à des divisions géopolitiques incontrôlées et à des conflits qui s'emballent notamment en Ukraine, à Gaza, au Soudan et ailleurs.
Alors que la guerre de Gaza dure depuis bientôt un an, plus de 41 000 Palestiniens ont été tués et une centaine d'otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas. Renda Slim, de l'Institut du Moyen-Orient, pense qu'il est peu probable que des progrès vers un cessez-le-feu soient réalisés lors de cette Assemblée générale à New York.
Je ne vois pas une telle dynamique. Je pense que les deux parties, le Hamas et le premier ministre israélien, semblent se préparer à une guerre et un conflit prolongé.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas ne manqueront pas de mettre l'accent sur la guerre lorsqu'ils s'adresseront à l'Assemblée générale jeudi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également attendu à New York. Plus de 2 ans et demi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la paix reste difficile à obtenir. Zelensky devrait plaider en faveur d'un soutien militaire accru et d'armes à longue portée lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine mardi et devant l'Assemblée générale mercredi. Richard Goen, directeur ONU de l'International Crisis Group.
Pour l'Ukraine, le grand défi consiste à stopper l'avancée de la Russie dans l'Est. L'avenir de la guerre se décidera sur le champ de bataille, pas à l'ONU.
Le président russe Vladimir Poutine ne viendra pas à New York, mais son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, y sera. Les diplomates se réuniront également pour discuter de la guerre au Soudan. Malgré de nombreuses initiatives internationales, il n'y a pas eu de cessez-le-feu et 17 mois de combat ont entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes et plongé des millions d'autres dans la famine. Joe Biden fera sa dernière apparition à l'ONU en qualité de chef d'État. De nouveau, Richard Goen.
Je pense qu'il y a encore un certain respect pour son engagement en faveur du militarisme, mais il y a aussi beaucoup de regrets qu'il n'ait pas donné à l'ONU un rôle plus important dans la gestion de la guerre à Gaza.
Le secrétaire général donnera le coup d'envoi de cette semaine marathon diplomatique dimanche avec un sommet du futur de 2 jours qui vise à réformer le système des Nations Unies pour faire face à de nouveaux défis dont le changement climatique et l'intelligence artificielle.
Nous ne pouvons pas créer un avenir adapté à nos petits-enfants avec des systèmes construits pour nos grands-parents.
Les négociations sur un pacte pour l'avenir substantiel ont été difficiles, mais on s'attend à ce qu'il soit adopté.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
En ce début d'année scolaire au Gabon, les enseignants sont à pied d'œuvre dans l'objectif de permettre aux étudiants de garder le même cap, notamment pour les résultats du bac qui ont affiché des taux de réussite élevés ces 2 dernières années. La professeure de lettres Irène Dambé, dont les romans sont étudiés au Gabon et au Togo, explique comment elle amène les jeunes lycéens à aimer la littérature.
On constate parfois qu'il y a un désintérêt s'agissant de la lecture. C'est le constat que j'ai pu faire durant ces années. Les élèves n'aiment parfois pas lire et il faut trouver des stratégies, ce qui est véritablement intéressant au cours de ces 21 années. Ce que j'ai trouvé très intéressant, exaltant même, devrais-je dire, ce sont les stratégies qu'en tant qu'enseignante, j'ai pu mettre en œuvre justement pour susciter cette envie de lire, pour susciter même aussi cette envie d'écrire de façon correcte.
Alors comment parvenez-vous à leur faire aimer la littérature ?
En choisissant des passages, parce qu'il y a des ouvrages au programme et il y a ce moment où nous sommes amenés à demander aux élèves de lire l'ouvrage. Il y aura bien entendu un contrôle de lecture, il y aura une étude, des échanges, des exposés, des débats autour des thèmes. Il y aura aussi un moment où, au-delà de la lecture intégrale de l'ouvrage, l'enseignant sera amené à choisir vraiment des passages clés pour susciter un débat par rapport à la thématique évoquée, mais aussi pour relever toute la beauté de la langue s'agissant de ce qui concerne le style. Et les élèves, les lecteurs ne devraient pas être indifférents à tout ce qui concerne les figures de style, par exemple, tous les outils qui sont utilisés justement et qui font la particularité du texte littéraire.
Vous avez écrit 2 romans, voudriez-vous nous les citer et expliquer vos sources d'inspiration ?
Alors le premier roman s'intitule « Malamba, la femme poison » et le second roman s'intitule « Mea culpa, mea maxima culpa ». Ces 2 livres sont au programme scolaire dans mon pays, le Gabon, en classe de première. Et mon 2e roman vient d'être inscrit au programme au Togo, au lycée, en classe de terminale. Dans mes deux ouvrages, il est question d'ambition démesurée également, il est question de cupidité, il est question de toutes ces tares comportementales qui malheureusement ne grandissent pas l'homme. Et c'est un appel à beaucoup plus d'humanisme, un appel à la dignité. En définitive, nous devons tous adopter une attitude résolument humaine et renoncer au chemin sombre, à ces attitudes et comportements qui nuisent aux semblables et qui ne sont pas source d'épanouissement pour la société.
L'enseignante et auteure gabonaise Irène Dembé répondait aux questions de Nathalie Barge. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.